Bonjour Ludo.
Bonjour Jacqueline, salut à tous.
Un thème qui pourrait paraître bien loin de l'agriculture, le numérique. Car quoi de plus éloigné en fait du numérique, apparemment, que des plantes qui poussent ou des vaches qui ruminent?
La nature, oui.
Et pourtant le salon de l'agriculture a été le moment pour le ministre d'annoncer des orientations en faveur d'outils toujours plus élaborés et connectés. Des robots pour désherber les cultures, des GPS pour guider les tracteurs, des robots encore qui traient les vaches, des robots qui donnent à manger.
Oui.
Que se passe-t-il dans l'agriculture, Ludo?
Alors, il se passe beaucoup de choses, comme toujours. Et on peut faire un petit clin d'œil, puisque le 8 mars, c'était la journée des femmes. Les femmes en agriculture, c'est très important. Elles sont de plus en plus nombreuses et on les salue.
Eh bien, écoute, c'est
Sarah et Myriam, par exemple.
Très bien.
Pour revenir à notre numérique, parce que le ministère de l'Agriculture, avec son programme France 2030, il appelle ça la troisième révolution agricole, qui doit donc se faire grâce au numérique, avec quatre grandes branches. Donc, celle des plateformes d'échange, celle de la multiplication des données, qu'il faut capter, traiter et stocker, beaucoup de boulot. Celle de l'intelligence artificielle, qui intervient sur nos capacités d'analyse et d'action dans les exploitations. Et celle de la robotisation, celle qui parle au plus grand nombre. Le secteur agricole, aujourd'hui, est un des principaux secteurs de l'innovation technologique.
Des exemples avant de rentrer dans le sujet, de ce que l'on voit donc, nous, en tant que citoyens, lié à cette révolution numérique.
Ce que l'on voit plus facilement, l'extérieur, c'est bien l'agriculteur qui a son smartphone. L'agriculteur, ce n'est plus forcément celui qui est au fin fond de la campagne, qu'avec sa fourche. Il est connecté à la météo, il est connecté au marché, à sa banque, il déclare tous les mouvements d'animaux, il valide un devis. C'est l'outil du chef d'entreprise, ce sont les colliers aussi au cou des vaches qui nous renseignent sur leur santé. Ce sont aussi les capteurs qui pilotent automatiquement la ventilation des bâtiments. C'est aussi, par exemple, l'objet que vous voyez sur le toit du tracteur, souvent jaune, qui est en réalité une antenne GPS qui guide le tracteur dans le champ à quelques centimètres près seulement. En robotique, ce que vous connaissez le mieux, je pense, c'est sûrement le robot de traite qui est au point et qui arrive chaque année un petit peu plus dans les élevages. Vous avez aussi le robot qui donne à manger aux vaches et aux chèvres. Il mélange tous les ingrédients qu'il va chercher dans ce qu'on appelle la cuisine.
Il y a une cuisine dans les fermes pour les vaches?
Et oui, c'est le progrès, il y a une cuisine dans les exploitations maintenant. Et on a aussi des aspirateurs, Jacqueline, ce sont des aspirateurs à lisier, pas pour faire les poussières. Ils passent au milieu des vaches en fait toute la journée. Et vous allez aussi peut-être voir arriver cet été les robots qui cueillent les pommes. Les entreprises jouent les coudes pour sortir un outil efficace. Le premier des concurrents qui arrive en fait chopera le marché. Si cet outil est encore à l'état de rodage, il y a de fortes chances pour que vous en croisiez dans les vergers de Gâtine dans les années à venir. Il y a aussi moins visible les capteurs, les caméras qui modulent les apports en fonction des besoins des plantes, que ce soit pour l'irrigation, les engrais ou les pesticides. Selon la couleur et la densité des plantes, par exemple, c'est ce qu'on appelle l'agriculture de précision.
Agriculture de précision, mais est-ce pour ça une révolution?
Oui, alors il y a une révolution dans la méthode, mais ce n'est pas une révolution systémique de système. L'agriculture de précision vient optimiser les méthodes, limiter le gaspillage, limiter l'impact environnemental, mais on ne change pas la vision globale du système agricole avec ces technologies. Elles trouvent de l'intérêt en ce moment, par contre, avec la hausse du coût des intrants.
Intrants, les engrais, par exemple,
oui,
que les agriculteurs épandent. Pour certains, donc.
Oui, vous les voyez en ce moment passer sur les prairies, sur les céréales. Avec cette hausse de coût d'intrants, il devient donc rentable d'investir dans ces solutions pour acheter et épandre une dose plus cohérente face aux besoins.
L'agriculture de précision n'est donc pas vraiment une révolution agricole.
Non, c'est vrai, pas fondamentalement, je dirais. L'agriculture de précision permet de faire comme avant, mais en limitant les impacts et optimiser. L'étape suivante est que l'agriculture de précision soutienne une agriculture résolument naturelle, basée sur la science, la connaissance et l'observation, le bon sens.
Toujours le bon sens. La robotique que l'on voit arriver marque-t-elle en revanche une révolution assez nette?
Alors la robotique s'attaque, elle, à limiter les astreintes, les tâches répétitives. Elle diminue la pénibilité du travail. Elle s'attaque par exemple, ce qu'on a dit, à la traite, au désherbage pour tout ce qui est maraîcher, à la conduite d'engins. Le frein au développement de ces machines, eh bien leur coût d'investissement. L'acheteur calcule sa rentabilité. Il s'agit dans le cas de la robotique d'une classique en fait substitution du travail par les machines. Leur impact à terme sera fort sur la structure et l'organisation des exploitations.
Si l'agriculteur prend ce virage, Ludo, sinon l'impact sera nul?
Oui, si l'agriculture prend ce virage, il y aura un impact, sinon il sera nul. Mais les automatismes, la robotique, l'agriculture de précision même, cela fait vivre de nombreuses entreprises, il faut être clair, qui développent et créent des outils pour le secteur agricole. L'État aide à financer les investissements, ce qui rend la robotique plus accessible pour les agriculteurs. Et ça, ça fait tourner les constructeurs, les entreprises. Et ça crée aussi du travail pour les organismes qui gèrent les dossiers d'aide. Globalement, en fait, tout le monde travaille, tout le monde est content, l'agriculteur et l'État paient. Ce système satisfait beaucoup de monde, même si finalement, on peut dire que l'agriculture de précision, c'est avant tout source de travail pour tous ceux qui sont autour des agriculteurs, sans faire la révolution.
La robotique, les machines qui se substituent à l'homme, permet-elle de répondre aux problèmes de la main-d'œuvre en agriculture ?
Alors, elle est présentée comme une solution dans le monde de l'élevage.
T'as pas l'air convaincu.
Alors, je vais essayer d'être objectif. Elle est présentée comme une solution, c'est vrai, dans le monde de l'élevage essentiellement, comme dans le monde du maraîchage aussi, ou de l'arboriculture, hein. Par exemple, le robot qui va cueillir les pommes. Mais le déficit de main-d'œuvre, à mon sens, est structurel, d'origine socio-économique et politique. Et la robotique, en fait, apporte une solution seulement technique. Faut pas prendre le problème à l'envers. Et elle ne règle pas l'origine du déficit. Elle tend aussi, cette robotique, à l'agrandissement des exploitations, pour être capable d'investir en fait dans ces technologies. Elle contribue ainsi à favoriser une politique de concentration des fermes. L'État finance cette stratégie et est très clair au niveau des transformateurs aussi et de l'industrie agroalimentaire. Il dit qu'il faut se robotiser pour améliorer la compétitivité. Par exemple, on compte 60 robots pour 10 000 salariés dans cette branche, contre 132 dans le reste de l'industrie française. Et elle est avant-dernière dans l'Union européenne. Il y a donc 1 milliard d'euros qui sont injectés en 2023 pour les PME de l'agroalimentaire, dont la moitié d'argent public.
La robotique et le numérique en élevage, ce n'est pas terminé. Et ça promet des bouleversements à venir. Reste à savoir.
Pour quel type d'agriculture. Et ça, ce sera aussi aux consommateurs de le décider.
Tout à fait, Ludo. Bien joué. Merci à toi.
Bonne journée. Ciao.